Bernard Puépy, bonjour.
Bonjour.
Beaucoup de paysans africains essayent de résister à l'achat de leurs terres par des compagnies étrangères, mais est-ce que ce n'est pas la bataille du pot de terre contre le pot de fer ?
Effectivement, au début, on pouvait penser à cela, mais lorsqu'on voit l'engouement et l'engagement des organisations internationales de défense des droits des paysans, le combat semble porter des fruits.
Mais à partir du moment où de grandes compagnies étrangères obtiennent l'accord de l'État du Ghana, du Nigeria ou de votre pays, le Cameroun, pour acheter des terres qui ont été immatriculées, comment les villageois peuvent-ils s'y opposer ?
Ils n'achètent toujours pas de terres immatriculées. Souvent, les compagnies qui viennent, ils ont soit des groupes de lobbying qui viennent trouver les officiels, les gouvernants, et tout se passe souvent dans une opacité telle que il n'y a pas au préalable de plan où on identifie même le genre de culture que porte déjà le terrain. On considère souvent que les terrains sont des terrains nus, alors qu'en réalité, c'est des terrains, c'est des villages, c'est des plantations. Donc, les paysans, le plus souvent, ils ne sont pas au courant des négociations préalables. C'est quand le décret sort qu'ils se rendent compte que leurs terres ont été attribuées à ces compagnies étrangères. Et les réactions, c'est souvent lorsque ces compagnies viennent, soit avec des tracteurs et autres. On a vu des cas dans des pays où tous les villages se couchaient devant les engins pour dire « vous passez sur nos cadavres avant de continuer ».
Dans quel pays, par exemple ?
Je prends le cas du Mali. La dame dit elle était grosse lorsque la compagnie est venue avec des engins. Lorsqu'elle s'opposait, les policiers l'ont tapé, ce qui a provoqué une naissance précoce de son bébé qui est mort.
Mais en réalité, qui est propriétaire de ces terres ? Ce sont les paysans qui les exploitent, ce sont les compagnies qui les achètent en disant que voilà, elles étaient immatriculées et elles ont payé pour les acheter ?
Au départ, la terre est considérée comme un bien communautaire sous la gestion des autorités traditionnelles qui en disposaient pour le bien de tout le monde.
Ça, c'était avant la colonisation.
Avant la colonisation. Mais quand la colonisation est venue, la préoccupation, c'était de s'accaparer ces terres pour installer les colons. Donc, à ce moment, les indigènes, comme on les appelait, avaient le droit de jouissance et les Européens avaient le droit de propriété. Aux indépendances maintenant, beaucoup de pays ont tenté des réformes. Ils ne pouvaient pas revenir tout d'un coup sur les anciennes pratiques. Ils ne pouvaient pas aussi rejeter le droit moderne. Donc le système foncier en Afrique joue sur une coexistence tumultueuse entre le moderne et les pratiques ancestrales. Et l'État, pour pouvoir investir, a mis toutes les terres sous son administration. Ce qui veut dire que pour attribuer ces terres aux investisseurs étrangers, l'État ne se croit pas obligé de consulter les populations qui les exploitent. Et c'est de là où naissent la plupart des conflits.
Est-ce qu'il y a des pays africains où les droits ancestraux sont mieux respectés que d'autres ?
Oui, des pays comme le Nigeria, comme le Ghana, les autorités traditionnelles ont encore un poids assez fort pour la gestion des terres.
Et au Cameroun ?
Au Cameroun, je peux dire que les autorités traditionnelles, dans la réforme actuelle, participent, mais elles ne peuvent pas s'opposer à l'autorité de l'État. On essaie de les ménager juste pour que les populations s'approprient l'action de l'État. Mais au fait, le pouvoir des autorités traditionnelles en matière de gestion foncière ont été passablement affaiblis.
Est-ce qu'il y a des commissions de contrôle ? Est-ce qu'il y a dans certains pays des solutions de compromis ?
Oui, il y a le Bénin, il y a le Niger. Au Bénin, la réforme foncière a été conçue telle que, avant qu'on en arrive à l'obtention du titre foncier, qui en droit moderne est la matérialisation de la propriété, il y a des commissions de village où le chef traditionnel et les notables ont un grand pouvoir lorsqu'ils peuvent établir une attestation en disant que telle portion de terre appartient à telle. Cette attestation est valable même devant l'administration.
Bernard Puépy, vous semblez être du côté de ces villageois qui luttent contre les compagnies étrangères, mais est-ce que celles-ci n'apportent pas de l'argent frais et ne permettent pas de développer l'agriculture de ces pays ?
Je ne suis pas contre, parce que même dans le livre, je dis bien qu'il faudra trouver un compromis entre l'agriculture paysanne et l'agriculture industrielle. On dit que ça crée d'emplois. Or, quand on a un tracteur, on n'a plus besoin de beaucoup d'ouvriers. Par exemple, un hectare de terrain d'une agriculture industrielle utilise moins d'une personne, alors que le même hectare pour une plantation paysanne utilise 4 personnes. Lorsque ces plantations industrielles viennent s'installer, il faudrait que les paysans en profitent ou qu'ils soient même actionnaires pour pouvoir contrôler si c'est vraiment dans l'intérêt de la communauté. Donc je ne milite pas pour le rejet de la plantation industrielle, mais on peut l'humaniser.
Bernard Puépi, merci.